France Culture.
Le droit de vote des femmes, 150 ans de combat. Une série de Nejma Bouakra, réalisée par Clémence Gross. Avec Léopoldine H.H. Épisode 1, citoyenne quand même, 1789-1792.
On va être en retard. Camille, tu sors de la douche?
Oui, je sais, j'aime bien la douche. Bah moi aussi j'aime bien la douche.
C'est taxé.
Mais c'était il y a 80 ans en France, le droit de vote des femmes, on en parle.
Alors, tout doux lista. Lancer une machine à carte de piscine, récupérer le colis, envoyer les courriers, aiguiser les couteaux. Médiation, CAF pour la pension alimentaire. Goûter Camille, fruits, pommes, bananes. Inscription, bibliothèque, robe, sequin. Et dimanche, allez voter. Allez voter pour.
Ces 80 ans ont finalement fait peu parler.
Pourquoi? Allez voter contre.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle.
Comme ce jour-là, Léopoldine sait qu'elle devra aller voter dimanche prochain. Je ne sais pas si j'ai envie d'encourager Léopoldine à voter comme on ferait bien ses devoirs, car l'obligation morale ou même la menace, si tu ne votes pas, ça ira mal, si tu ne votes pas, d'autres voteront pour toi, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, le vote des femmes, longtemps rempart contre l'extrême droite, aujourd'hui a cédé. Non, Léopoldine, je ne pense pas que tu devrais faire le garde-fou de la démocratie. Durant 150 ans, les femmes n'ont pas eu accès au suffrage, le droit d'être comptées en somme. Trop versatiles, votant comme leur mari ou dévoués à l'église, pas assez mûres, des têtes de linotte, sans droit de vote. Pourtant, les femmes furent de toutes les révolutions. Elles font tomber le roi et c'est un jeu de domino, tout un édifice et un ordre social qui dégringole. Puis le mari, le père, le fils héritier, le frère républicain qui conçoit la fraternité sans les femmes. Car la conquête du droit de vote, c'est aussi celle de l'égalité, de la liberté de mouvement, de pensée, d'opinion, le droit au travail. Mais qu'on se le dise, ce n'est pas en votant que les femmes ont obtenu le droit de vote.
Ni en fait d'autres moyens.
Ni de la main du général de Gaulle.
La souveraineté nationale, que de donner la parole au souverain, c'est-à-dire au peuple français.
1944.
Dès que notre territoire entier sera libéré, que nos prisonniers et nos déportés auront regagné leur foyer, le gouvernement conviera la nation à élire par le suffrage universel de tous les hommes et de toutes les femmes de chez nous.
Par quels arguments, avec quelles armes, les femmes ont-elles gagné la reconnaissance de leur citoyenneté à part entière?
Les représentants dont la réunion formera l'Assemblée nationale.
Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle.
Parfois, il nous vient des ritournelles. On ne sait plus par quel vent, par quel air du temps, sur nos lèvres, une chanson.
D'une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent le soleil.
Tant que les femmes ne s'en mêlent pas, il n'y a pas de véritable révolution.
Cela, c'est Mirabeau qui le disait. Eh bien, elles s'en sont mêlées. Elles ont commencé le 1er janvier 1789 par la pétition des femmes du tiers-état au roi. Le 14 juillet, la Bastille est prise. En août, elles se battent. En septembre, elles offrent leurs bijoux. En octobre, elles vont réclamer du pain à Versailles. Résultat, le 22 décembre, elles sont exclues du droit électoral.
Éric Bulliard arpente la vie des faubourgs parisiens dans son livre « 14 juillet » et s'accroche au pas flottant des insurgés, le temps d'une longue nuit et d'un lever du jour qui se nomme « Révolution ».
Depuis deux jours au moins, enfin d'abord depuis plusieurs mois, Paris est tout de même en effervescence et depuis deux jours, on peut dire que la ville entière est en émeute, en fait, dans un processus pré-insurrectionnel. Et là, cette nuit-là, après les mauvaises nouvelles des jours précédents aussi, puis les barrières, au contraire, ce qui est une bonne nouvelle pour les Parisiens, les barrières de l'octroi qui brûlent, on sent qu'il va se passer quelque chose, si bien qu'on ne dort pas. Et les récits du temps donnent un Paris très curieux où il se passe toutes sortes de choses différentes, mais où surtout les pauvres investissent. Par exemple, les maisons des notables se font servir à boire et à manger. Il y a une forme de liberté en fait nouvelle et d'égalité active. Paris est désormais au peuple, tout chaviré, aiguisé, se baignant aux fontaines. La nuit est tombée, de petits groupes marchent sur les barrières, et dans la nuit de la grande ville, il y eut alors une étincelle, cri de Mika. L'octroi fut incendié, puis un autre, encore un autre, les barrières brûlaient. Ce qui brûle projette sur ce qui nous entoure un je ne sais quoi de fascinant. On danse autour du monde qui se renverse, le regard se perd dans le feu, nous sommes de la paille. Et je pense précisément que c'est ce qui fonde une forme de fraternité nouvelle, qu'on va appeler d'ailleurs d'une autre manière, l'égalité, d'une façon plus abstraite. Par exemple, progressivement, on va voir les gardes françaises qui vont se séparer du pouvoir royal, parce que après l'expérience de l'émeute Réveillon, la répression a fait 300 morts, ça reste dans toutes les mémoires collectives. C'est-à-dire que les états généraux sont pas du tout considérés par le peuple des faubourgs comme quelque chose de libérateur, puisque la plupart d'entre eux n'ont pas été du tout électeurs, et on a finalement que 8 représentants entendu du peuple avec 4 suppléants, si je me souviens bien, pour tout le faubourg Saint-Antoine, ce qui fait très peu, et parmi eux, l'un d'entre eux est Réveillon, c'est-à-dire le patron de la manufacture qui a donné lieu à l'émeute de fin avril, qui a fait tout de même 300 morts parmi le peuple. Et donc eux qui sont français, qui donc ont parfois dans leur famille éventuellement eu des morts parmi leurs amis, qui subissent des reproches au fond du peuple ouvrier des faubourgs, vont se désolidariser du pouvoir royal. Si bien que ces gens s'aperçoivent qu'ils n'auront rien à dire aux états généraux, que tout ça se jouera entre gens de bien, entre gens fortunés. Et donc on a une autre version du tiers-état, un tiers-état dont ce qui le fédère est l'idée d'être les pauvres ouvriers des faubourgs, contre le tiers-état des notables.
17 juin 1789, les états généraux se déclarent Assemblée nationale, représentante de la nation. 3 jours plus tard, l'Assemblée devient constituante et prête le serment qu'elle ne se dissoudra pas avant d'avoir doté le royaume d'une constitution. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen doit servir de guide aux intentions de l'Assemblée constituante. 40 projets, 6 jours de discussion pour aboutir à la Déclaration des droits de l'homme.
Au début, tous les députés n'étaient pas d'accord pour faire précéder la Constitution d'une solennelle déclaration qui expose tous les principes et les droits de l'homme et du citoyen, surtout ne pas oublier, et du citoyen.
Dominique Godinot.
Et ce qui a surtout fait débat, c'était allait-on faire précéder la Constitution d'une déclaration. Ceux qui étaient opposés assuraient que ça pouvait être dangereux. C'est dangereux, ce n'est pas bon que l'homme pauvre soit au courant de ses droits parce qu'il peut être tenté d'en abuser. Le terme d'abus revient en permanence dans leur bouche, parce que la Déclaration des droits présente des principes qui s'appliquent à tous. Tout individu possède, par le fait qu'il est un individu, par sa nature même d'individu, des droits naturels, qui lui appartiennent en propre, qui sont, comme c'est dit dans la Déclaration d'ailleurs, inaliénables et sacrés. Inaliénable, ça peut paraître bizarre, mais ça veut dire que si cet individu, homme ou femme, peu importe, s'il ne jouit pas de l'exercice de ses droits dans la société, il n'empêche que ses droits lui appartiennent par nature. Vous voyez, et c'est ce qui fait la force de la déclaration. Et vous avez plusieurs individus, en particulier femmes, qui sont exclus de l'exercice des droits politiques. Mais il n'en demeure pas moins que ces droits sont les leurs. Eh bien, leur discours, ce n'est pas « donnez-nous de nouveaux droits » quand elles s'adressent aux députés, c'est « rendez-nous nos droits, appliquez la déclaration que vous avez votée. »
Olympe. Olympe.
Olympe de Gouges, 1748-1793.
Olympe.
La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 17 articles de loi en miroir de la Déclaration des droits de l'homme.
Elle, Olympe de Gouges, dit et écrit : La Constitution est nulle, si la majorité des individus qui composent la nation n'a pas coopéré à sa rédaction. Article 6.
Elle écrit dans la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne :
la loi doit être l'expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation.
Ça veut dire que si tous ne contribuent pas, ne concourent pas personnellement ou par leurs représentants à sa formation, c'est-à-dire en élisant les députés qui vont faire la loi, eh bien, il y a quelque chose de caduc. La Constitution, d'une certaine façon, est nulle.
Elle doit être la même pour tous. Toutes les citoyennes et citoyens étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
C'est un texte tout à fait, qui n'a pas eu d'écho, mais qui est tout à fait important, mais qui n'est pas non plus, c'est pas une production isolée, c'est pas un cri au milieu de rien du tout.
Dominique Godinot.
Olympe de Gouges n'apparaît pas comme la femme révolutionnaire par excellence, comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut bien dire que Olympe de Gouges, d'ailleurs, alors bien sûr, elle approuve la révolution, mais elle est plutôt favorable à une révolution modérée, pour ne pas dire très modérée. Mais comme beaucoup, je dirais, d'hommes et de femmes de son milieu, des Lumières, hein, c'est-à-dire que Olympe de Gouges plaint le peuple, Olympe de Gouges est contre l'esclavage, elle est anti-esclavagiste, mais quand le peuple se révolte, quand les esclaves se révoltent à Saint-Domingue, elle y est tout à fait hostile. Olympe de Gouges n'est pas une radicale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Olympe de Gouges est connue, mais il y a eu tout un processus ces dernières années, on va dire, d'héroïsation d'Olympe de Gouges, qui ont fait que finalement, l'Olympe de Gouges de 2024, c'est peut-être plus une femme de 2024. D'ailleurs, on a tendance à porter sur elle nos attentes. Et comme c'est une femme qui a défendu les droits des femmes, et qui est une pionnière de ce point de vue-là, et puis que c'est une femme qui a été guillotinée, etc., on a tendance à dire, ben voilà, c'est une révolutionnaire radicale, elle a défendu les mesures les plus radicales. Mais eh bien non, non, non.
Que se passe-t-il lors de cette assemblée constituante ? Le roi est toujours là ?
Alors le roi est venu à contre-cœur, il a fallu pour ça une marche célèbre, la fameuse marche des femmes des 5 et 6 octobre 1789, la marche de Paris à Versailles.
Martial Poisson.
Avec les dames de la Halle, qui sont des personnalités connues déjà sous l'Ancien Régime, des femmes politiquement très mobilisées, des pétitionnaires qui ont une grande habitude d'aller plaider leur cause auprès du roi, des hommes déguisés en femmes pour éviter de subir la violence policière, puisque la police n'a pas le droit de charger les femmes dans la rue, donc souvent les hommes se déguisent en femmes pour pouvoir participer à des cortèges, des tas de gens qui sont enrôlés, plus ou moins malgré eux, et qui font ces 20 kilomètres qui les séparent du quartier des Halles au centre de Paris jusqu'à Versailles pour demander une chose importante qui est justement la validation par le roi de la Déclaration des droits de l'homme et sa participation au travail de réforme institutionnelle qui doit conduire, pense-t-on à l'époque, à la mise en œuvre d'une monarchie constitutionnelle. Donc il est au cœur des débats, mais avec réticence et il va finalement aller à reculons. Grâce à ce mouvement, il faut le signaler quand même, qui est la plus grande victoire de la Révolution française, c'est beaucoup plus important dans les conséquences politiques que le 14 juillet 1789, qui a évidemment une ampleur symbolique, mais qui n'a pas eu de conséquences politiques directes. Là, véritablement, on a, par ce mouvement de femmes, réconcilié le roi provisoirement avec la nation.
Thérouanne de Méricourt, à Versailles. Elle marchait. Je marchais, toute une rue à côté d'eux. Il y avait beaucoup d'hommes qui crièrent
« Oh, une femme députée, c'est singulier !»
Quelques prêtres aristocrates qui s'en aperçurent criaient après moi. Je me retirais enfin, malgré qu'il y avait beaucoup d'autres qui, comme moi, marchaient en procession.
C'était des hommes, des aristocrates.
Qui trouvèrent singulier qu'une femme voulût faire la même chose.
Thérouanne de Méricourt, c'est un faux en fait, puisqu'elle n'a jamais revendiqué ce nom. En réalité, son véritable nom, c'est Anne-Joseph Lambertine Thérouanne. Et c'est un sobriquet dont on l'a affublé pour pouvoir singer ses positions, pour pouvoir ridiculiser son engagement dans la société de son temps.
Thérouanne de Méricourt, 1762-1817. De Méricourt, la particule est de trop. surnommée en son temps la Belle Liégeoise, puis un siècle plus tard l'amante du carnage par Baudelaire, Théroigne est fille de laboureur. Orpheline de mère à 5 ans, elle fuit l'indigence et les mauvais traitements, puis la réclusion, le couvent. Vachère, puis domestique, elle rencontre une riche anglaise qui la promeut dame de compagnie, lui apprend à lire, à écrire et l'initie à la musique. Elle parcourt cette Europe toute mise en mouvement par les Lumières, se rêve cantatrice, aimée, délaissée, malmenée par un marquis jaloux et escroquée par un castrat chanteur à la chapelle Sixtine, elle monte à Paris où elle est happée par la Révolution française. Au salon, le club des Amis de la Loi, elle tient à informer des débats à l'Assemblée, le peuple lui-même.
Je crois que c'est la personnalité, finalement toute personne confondue, la plus décriée. Elle est célibataire, ce qui la rend à la fois vulnérable aux critiques, mais qui lui donne également une liberté. C'est un peu un électron libre dans la société de son temps. Et elle va s'affranchir en même temps de la plupart de ceux qui conditionnent les femmes de son temps, y compris les plus lettrées.
Comment était-elle habillée, Théroigne ? En Amazone ?
Théroigne de Méricourt n'est pas une Amazone, ça c'est le discours qui est porté sur elle.
Elle portait un glaive, un sabre.
Ce qui est intéressant, c'est que ce terme d'Amazone, il est utilisé à la fois par ses partisans.
Une robe ?
Un certain nombre de révolutionnaires qui la décrivent en tant que telle.
De quelle couleur ?
Parfois même de façon encore beaucoup plus ambiguë. Hein. Camille Desmoulins la traite de reine de Saba.
Bleu ?
Donc c'est...
Blanc.
Probablement un éloge de sa part, mais on peut aussi y voir quand même là aussi encore un retour à la sexualité.
Rouge.
Et elle est aussi utilisée par ses détracteurs, donc d'une façon péjorative. Elle utilise des tenues extrêmement chatoyantes, en particulier un bleu. Elle se promène avec des pistolets et un sabre à la ceinture, chapeau avec une grande plume, et puis donc les armes apparentes, ce qui est là pour le coup complètement illégal.
Que fait-elle là, à marcher en procession ? Qui est cette femme députée ? Pourquoi députée ?
Là, on a une attaque malveillante des royalistes, hein, puisque ce qui est sûr, c'est que Théroigne participait aux délibérations de l'Assemblée, qu'elle siégeait dans les tribunes, comme il était permis aux femmes de le faire à cette époque-là. On sait qu'elle est venue à Paris et même à Versailles. Hein, elle habite rue de Noailles, qui est juste à côté donc du siège de l'Assemblée nationale constituante, pour pouvoir assister à ces débats, celle qui était destinée à fonder la nouvelle constitution de la France, d'abord à Versailles, où Théroigne s'installe pour pouvoir être, si on peut dire, à pied d'œuvre, et puis ensuite à Paris. Elle est même connue pour avoir été particulièrement assidue. Elle a suivi avec passion les débats de cette première Assemblée nationale constituante. Et ce terme de femme députée est évidemment un terme ironique, puisque aucune femme ne peut être députée à l'époque. Et elle fait preuve par cette citation d'une sorte d'étonnement, finalement, devant cette vindicte populaire.
Théroigne de Méricourt se fait connaître très rapidement au début de la Révolution. Pendant toute la Révolution, les députés, c'est une règle très importante, considèrent que leurs délibérations doivent être publiques. Et donc, il y a autour de la salle des séances des tribunes ouvertes au public. Et Théroigne de Méricourt, elle l'a écrit, elle est là tous les jours, aux séances du matin, aux séances du soir.
Et donc, elle allait s'instruire en allant à l'Assemblée. Et elle dit, c'est là où j'ai tout appris.
Caroline Fayol.
Et donc, elle explique dans un écrit autobiographique qu'elle connaissait rien. Elle a vaguement eu, elle dit, par instinct, un amour de la Révolution, mais qu'elle avait une ignorance qui faisait qu'elle ne... Elle n'avait pas les moyens d'expliciter pourquoi elle soutenait la Révolution. Et donc, elle allait s'instruire en allant à l'Assemblée. C'est là où, finalement, elle s'est transformée concrètement en citoyenne pour elle. C'est-à-dire qu'elle a opéré une mutation, une mue. La femme qu'elle était, ignorante et sentant juste qu'il y avait peut-être une nécessité de changer le monde, à cette femme nouvelle qui sait ce que c'est que la liberté, en fait. Qu'est-ce que c'est que, politiquement, la liberté ?
Il faut bien voir que Théroigne de Méricourt n'est pas unique de ce point de vue-là. Fréquenter les tribunes de l'Assemblée nationale, c'est une pratique féminine qui devient en fait assez courante. Elles y vont pour écouter la diversité des opinions, c'est-à-dire pour suivre les débats, s'instruire, c'est-à-dire s'instruire politiquement, écouter ce que disent les députés. Elles y vont aussi, elles et ils d'ailleurs, pour soutenir tel ou tel groupe. C'est-à-dire que depuis les tribunes, normalement, les tribunes ne doivent pas intervenir, mais... Il n'est pas rare que les tribunes peuplées d'hommes et de femmes interviennent en applaudissant tel député, en sifflant un autre. Alors normalement, ils n'ont pas le droit. D'ailleurs, à plusieurs reprises, certains députés demandent que les tribunes soient évacuées.
Ce qui est intéressant chez Terwang de Méricourt, c'est que c'est vraiment une activiste, en fait. Hein. Elle est une femme de la rue, elle est une marcheuse, elle est une pétitionnaire, elle va s'exprimer en publiant des affiches dans la rue, comme Olympe de Gouges, elle va tenir des discours publics dans des tribunes, dans des clubs célèbres, qui vont être remarqués, qui vont être également souvent reproduites dans la presse. Donc voilà, je dirais que c'est une femme publique, au sens où elle a une parole qui a du poids, qui compte, qui est répercutée, qui est commentée. Elle est une des personnalités les plus populaires avec Mirabeau et le duc d'Orléans. Donc elle est vraiment au premier plan de l'espace médiatique. Ses objectifs, c'est d'abord la justice sociale. Donc il y a une vraie conviction selon laquelle c'est d'abord par une révolution de la condition des femmes qu'on va pouvoir ensuite servir de levier pour obtenir des droits. Elle pose l'égalité des sexes comme préalable et donc les femmes de plein droit doivent bénéficier de ces droits naturels que la Déclaration des droits de l'homme a accordés au masculin ou à l'humain selon les lectures. Mais évidemment, un peuple qui n'exclut pas la moitié de l'espèce humaine. Et elle a aussi une réelle indignation sur la question du suffrage censitaire. Donc l'idée que on peut voter selon son statut social, selon son niveau de fortune, c'est le texte de l'abbé Sieyès sur le tiers-état. Qu'est-ce que le tiers-état? Et elle considère au contraire que, justement, ce droit doit être un droit fondamental attaché à la personne, quelle que soit sa condition. Donc c'est là peut-être qu'est la plus grande radicalité de sa pensée et sa plus grande originalité, y compris par rapport à des Olympe de Gouges, à d'autres figures éminentes, des Manon Roland, qui sont pas du tout dans cette vision-là, Louise de Keralio. Elle va beaucoup plus loin, vraiment, dans les conséquences de cette idée de souveraineté populaire.
La toute première constitution française est votée le 3 septembre. La Révolution a à résoudre une contradiction effrayante qui n'échappe pas à Terwijn de Méricourt. Certes, la nation est égale devant la loi, tous et toutes ont le droit à la protection de leur personne, de leur propriété, de leur liberté, mais tous et toutes n'ont pas le droit à prendre une part active dans la formation des pouvoirs publics, d'exercer leurs droits politiques. La Constitution distingue les citoyens actifs, payant l'impôt, des citoyens passifs. Ainsi, les domestiques ne votent pas, leur subsistance dépend d'un autre homme. Non éduqués, corruptibles, ils ne sont pas libres politiquement. Dominique Godinot, ce qui est étonnant, c'est que les femmes ne sont pas désignées comme citoyennes passives.
À ce moment-là, si vous voulez, il est évident, il est clair que les femmes, eh bien, sont exclues de l'exercice des droits politiques. Si vous voulez, pour une femme, il n'y a pas besoin de rajouter citoyen actif ou citoyen passif. De toute façon, les citoyennes ne possèdent pas l'exercice du droit politique. Et il faut bien comprendre qu'après, plus la révolution avance, plus ceux qui avaient été exclus vont être intégrés. Et chaque fois, il y a eu des défenseurs, des députés, pour intervenir en disant « c'est vraiment une violation, exclure les plus pauvres de l'exercice du droit de vote, c'est une violation de la déclaration ». Pour les femmes, rien du tout. Personne n'intervient. Aucun débat à l'Assemblée. Mais vraiment aucun. Le suffrage censitaire sera supprimé, les libres de couleur pourront accéder au droit de vote, etc. Mais les femmes, jamais.
Il y a une grande déception dans la Constitution telle qu'elle est livrée par rapport aux espoirs que cette réforme tout à fait fondamentale dans l'histoire de France a fait naître. Et on a des femmes qui, pour certaines, avaient une tradition militante depuis bien longtemps, depuis la fin du XVIIe siècle. On sait que les dames de la Halle, celles qu'on appelait les harangères, en fait, étaient des personnalités publiques depuis la fin du XVIIe siècle, qu'elles allaient régulièrement porter des requêtes auprès de la royauté, généralement dans des moments de disette, voilà. Mais donc, il y a cette culture politique qui existe. Et tout à coup, là, on a vraiment la fin de non-recevoir. Aucune trace, finalement, de tout cet engagement, aucune trace de ces débats, aucune trace de ces affiches, les Olympe de Gouges qui publiaient des affiches dans tout Paris, ou même Terwijn de Méricourt. On est vraiment dans une révolution brisée, enfin, du point de vue de la condition féminine.
Révolution manquée? Pas tout à fait, parce qu'elles sont nombreuses à se dire citoyennes, quand même, et qu'elles sont sorties du cercle domestique en participant à la révolution. Elles pourront bientôt divorcer, certes provisoirement, et enfin surtout, elles sont sujets de droit. Elles obtiennent un statut juridique, elles ne sont plus ce bien meuble, possession du père et du mari, comme sous l'Ancien Régime. Un air de liberté souffle, Martial Poisson.
À la fois, la femme est omniprésente dans l'espace symbolique et médiatique en tant qu'allégorie de la liberté et de la raison. Il y a même une idée assez intéressante qui dit que c'est Terwijn de Méricourt qui aurait servi de modèle bien plus tard à la liberté guidant le peuple de Delacroix, en 1830. Bon, chose complètement aberrante, mais enfin, ça dit bien justement cette confusion permanente entretenue entre le corps physique de la personnalité ayant réellement existé et le corps symbolique de l'icône dans laquelle elle a été transformée. On est face à un processus de compensation symbolique, en fait. Moins la femme est représentée dans l'espace social et politique, plus elle va être emblématisée dans l'espace symbolique. Donc, une sorte de dérivatif qui permet de ne pas avoir à penser la question de la place des femmes, puisqu'elles sont partout autour de nous, mais sous forme de statues, de tableaux, de symboles, d'emblèmes, de slogans. C'est quand même intéressant de se dire que toutes les grandes figures de la Révolution, la liberté, incarnée par une femme allégoriquement, la raison, la déesse raison. Donc voilà, pendant toute la Révolution française, on a cessé d'utiliser des femmes, généralement dénudées, pour symboliser les grandes idées abstraites nouvelles.
Une légende noire poursuit Théroigne de Méricourt.
Le 19 février 92 est publiée une gravure qui s'appelle « Le grand débandement de l'armée anticonstitutionnelle ». On voit toute une série de femmes, dont Germaine de Staël, des grandes figures du mouvement de la pensée féminine, qui font dos à l'ennemi et qui montrent leurs fesses en relevant leurs jupons. Et Théroigne de Méricourt, qu'on reconnaît à son chapeau, est la seule femme qui est de face, et qui, elle, se déculotte aussi, mais montre finalement son sexe, en fait. On est vraiment dans cette idée de la catin patriotique, qui est le terme qui est employé par les contre-révolutionnaires.
On dit d'elle qu'elle fut à la tête de 8000 femmes qui envahirent le palais de Versailles les fameuses journées d'octobre 1789. Elle se serait introduite dans la chambre de Marie-Antoinette et aurait assassiné un homme sur une barricade, mais il n'en est rien. Elle subit un rapt et est enfermée par le prince d'Autriche. Elle doit écrire ses confessions pour plaider sa délivrance. Là, Théroigne de Méricourt se livre à une introspection politique et affirme ses idées. Il n'y aura de véritable opinion publique que quand nous serons tous égaux en droit, qu'il est déplorable le long asservissement des esprits. Elle est libérée et revient plus libre encore.
1792. Française, je vous le répète encore, élevons-nous à la hauteur de nos destinées, brisons nos fers. Citoyenne, pourquoi n'entrerions-nous pas en concurrence avec les hommes ? Nous aussi, nous voulons mériter une couronne civique et briguer l'honneur de mourir pour une liberté qui nous est peut-être plus chère qu'à eux, puisque les efforts du despotisme s'appesantissent encore plus durement sur nos têtes que sur les leurs. Oui, généreuses citoyennes, vous toutes qui m'entendez, armons-nous. Allons-nous exercer 2 ou 3 fois par semaine aux Champs-Élysées. Ouvrons une liste d'Amazones françaises. Et nous nous réunirons ensuite pour nous concerter sur les moyens d'organiser un bataillon. En finissant, qu'il me soit permis d'offrir un étendard tricolore aux citoyennes du Faubourg Saint-Antoine.
La guerre est votée par les hommes à l'Assemblée législative au printemps 1792. Les citoyennes, en tant que citoyennes, appellent à prendre les armes. Les révolutionnaires font face à la menace d'une invasion étrangère visant à restaurer Louis XVI dans la plénitude de sa majesté. C'était le droit de vote des femmes, 150 ans de combat. Épisode 1, citoyenne quand même, 1789-1792. Une série de Nejma Bouakra réalisée par Clémence Gross. Lecture et création musicale Léopoldine H.H. Avec Éric Vulliard, Dominique Godineau, Caroline Fayol, Martial Poisson. Prise de son Johanna Gabric, Sandrine Malon. Mixage Manuel Couturier. À suivre, épisode 2, Aux armes citoyennes, 1792-1793.